France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture. Nous voilà ensemble pour 1h30 de débats, d'actualités et d'entretiens. À 13h, je recevrai Thibaut Garcia et Antoine Morinière pour leur album paru en novembre, une reprise à la guitare des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Mais dans cette émission des midis, c'est la critique qui lance les festivités au programme aujourd'hui du spectacle vivant, avec la nouvelle création très attendue de Joël Pommerat, Les Petites Filles Modernes, titre provisoire, qui marque également la réouverture du théâtre Nanterre Amandier et Casse-Noisette ou Le Royaume de la Nuit, mise en scène par Johanna Boyer. C'est à la Comédie Française, deux contes pour cette semaine de Noël, deux manières de raconter des histoires et de s'emparer d'un plateau de théâtre. Et avec nous aujourd'hui autour de notre table, Philippe Chevillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service culture aux Échos et Vincent Bouquet, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste et responsable d'édition du site Scène Web. Bienvenue à tous les deux. Alors tout a été dit ou presque sur le théâtre de Joël Pommerat. Chéri des programmateurs, des critiques comme des spectateurs, ces spectacles font déplacer les foules, que ce soit quand il revisite les contes, on se souvient notamment de son Cendrillon, ou quand il revisite l'histoire avec son spectacle Ça ira sur la Révolution française, ou encore quand il se lance dans une définition de l'amour avec la réunification des deux Corées. Mais récemment, ce sont les adolescents qui l'occupent déjà dans Contes et Légendes, c'était en 2020 je crois. Ils étaient au cœur du processus, alors qu'en est-il dans Les Petites Filles Modernes, titre provisoire, un premier avis, Vincent Bouquet.
Eh bien, je dirais qu'une nouvelle fois, Joël Pommerat réussit brillamment son pari, qui a la forme en fait d'une expérience théâtrale à mon sens, parce que tout est fondé comme ça sur une succession de jeux de miroirs qui fleurent bon à la fois l'alliance des mondes et l'audace aussi dramaturgique et scénographique.
Philippe Chevillier, une première impression.
Ma première impression, d'abord, c'est vrai que ça faisait 5 ans en fait qu'on n'avait pas vu de nouveau spectacle, même si les spectacles de Joël Pommerat tournent. Et là, moi, j'ai été évidemment absolument subjugué par ce spectacle. Je pense que c'est le spectacle d'un créateur au sommet de son art. Un conte onirique, une nouvelle fois, sur le mal-être adolescent, qui est d'une rare sophistication dans sa construction et d'une beauté formelle éblouissante. Et je crois qu'en 1h20, on perd un peu tous ses repères et que ça donne un peu une idée de... Ça a comme un air de jamais vu.
Vas-y, commence.
C'est vrai que tu connais Shawn Mendes personnellement ?
Oui.
Le vrai ? Celui qui chante Treat You Better ? The Nothing Holding the Back ?
Oui.
Qui a 300 millions de followers ?
Oui.
Comment tu le connais ?
Je lui ai écrit un jour une vraie lettre et il m'a répondu.
Il t'a dit quoi ?
Je lui ai dit que je voulais le voir. Je lui ai photocopié une photo de moi. Et il m'a répondu en français qu'il était chaud pour qu'on se voie lui aussi. Et depuis on s'écrit, texto et tout. On s'est pas vu encore en live. Chacun sur son continent.
Et tu comptes le voir ?
Ouais. Il va venir en concert d'ici 1 an. Et il veut me rencontrer. Il est trop stressé. Moi, ça me choque qu'on ait des sentiments réciproques, je te jure.
C'est quand ?
Dans 1 an.
Et tu penses à l'avenir sérieusement avec lui ?
Ouais, j'avoue. Si lui, il est chaud.
Mariage et tout.
Oh là là, ça va vite. Mais oui, pourquoi pas ?
Tu peux me regarder dans les yeux et me dire c'est vrai, je te le jure.
Oui, c'est vrai, je te le jure.
Vincent, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais vous me disiez hors antenne que vous avez quand même vérifié qu'il était Shawn Mendes.
Oui, oui, j'avoue que je suis un vieux dans un corps de jeune, on va dire ça comme ça.
Alors peut-être Vincent, formellement, comment elle se présente la pièce ? Que voit-on ? Alors on le sait, Joël Pommerat est un maniaque de l'image et il a d'ailleurs à ses côtés l'un des meilleurs créateurs lumière, peut-être contemporain.
Oui, effectivement, c'est vraiment cela qui frappe et qui frappe d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'il y a comme ça cette scène d'ouverture, moi je trouve, qui pose vraiment, vraiment le cadre. On va avoir comme ça deux silhouettes qu'on voit comme ça au loin avec une sorte d'effet d'optique aussi, comme ça, comme si elle cheminait vers nous, comme si elle venait d'un lointain passé. Et là, on se dit, tiens, Joël Pommerat, c'est comme s'il nous disait, mais il n'y a aucun mot qui est prononcé, comme s'il nous disait il était une fois. En fait, comme s'il nous le susurrait dans l'oreille. Et tout à coup, il va y avoir un renversement qui va s'opérer et on va avoir une scène immédiatement qui succède à cette scène-là, très onirique, avec deux collégiennes qu'on a entendues là dans l'extrait, Jade et Marjorie, et qui sont dans l'attente du CPE, comme ça, dans un bureau, et vraiment dans une réalité qui est très stricte, très brute, j'allais dire. Et là, on a vraiment cette alliance qui se met en place dès le départ. Moi, j'y ai vu, j'allais dire, une sorte de spectacle de Schrödinger. Vous savez, ce chat-là qui est à la fois mort et vivant. Et en fait, Joël Pommerin, à la fois, il n'arrête pas d'investir des univers comme ça qui apparaissent totalement antagonistes au départ. C'est-à-dire que il allie le réel, la fiction, le monde des adultes, la sphère des adolescents, l'étrangeté du fantastique, la banalité du quotidien, la stricte réalité, l'univers du conte. Et alors, on pourrait se dire comme ça, décrit en plus comme ça, on pourrait se dire, mais ça, c'est du grand écart, il va y avoir des claquages, forcément, à un endroit ou à un autre. Et en fait, là où c'est très très fort, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va avoir comme ça ce jeu, on va dire, de miroir qui va se mettre en place. Et il se met aussi en place scénographiquement. C'est-à-dire qu'avec notamment la partition de son créateur lumière de toujours, Éric Soyer, eh bien, il va mettre en place des lumières qui sont quasi immersives, on va dire ça comme ça. Alors, il y avait évidemment les fondus au noir.
Bon, les fameux noirs de Joël Pommerin,
j'allais dire, souvent imités, rarement égalés, on va dire ça comme ça, parce que une nouvelle fois, on les a vus, ces noirs, on va dire, se répandre sur les scènes ces dernières années. Et là, lui, il les fait, et il les fait encore, c'est encore plus sublime.
Peut-être un petit mot sur ces noirs, c'est-à-dire que les spectacles de Joël Pommerin sont construits comme des scènes cut, coupées par des noirs, et qui durent, je sais pas, 3-4 secondes, et puis quand la lumière s'allume, on est dans un espace totalement différent. Il y a quand même quelque chose de la magie qui s'opère dans cette pièce.
Totalement, et à chaque fois, c'est-à-dire que moi, je me souviens des premiers spectacles de Joël Pommerin que j'ai vu, c'était, il y a une quinzaine d'années maintenant, et c'est ça qui m'a embarqué. Et là, je me suis dit, ah oui, le théâtre, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette magie-là, tout à coup, quasi enfantine, et quasi comme ça, d'avoir une apparition, on passe d'un monde à l'autre en l'espace de 3 secondes, et on se demande comment tout cela est fait, d'ailleurs.
Philippe Chevillier, sur cette scénographie, sur ces lumières.
Oui, c'est d'autant plus étonnant que les derniers spectacles, vous le disiez, en fait, quand vous avez cité Marius et puis Amour. Alors, Marius, on était dans l'hyper-réalisme.
De Pagnol, hein, c'était une adaptation de Pagnol avec des gens qui sortaient de prison.
Avec des ex-détenus. Et donc, pour le spectateur, on se retrouve dans l'univers peut-être des deux Corées, tout ça, mais avec à la puissance supérieure. Et c'est vrai qu'on a à la fois les décors et les lumières d'Éric Soyer, les vidéos aussi de Renaud Rubiano, parce que tu dis les vidéos non pas pour faire des projections de personnages et tout ça, mais pour projeter des espaces pour scène. Donc on est en fait, c'est un peu l'art de nous perdre, ce spectacle, parce que on est perdu dès le départ dans la mesure où on commence par le rêve et que ce rêve est complètement ahurissant. Il y a une histoire de monstres amoureux dans un monde parallèle qui sont en prison, emprisonnés. Enfin, il y en a une qui est emprisonnée parce qu'ils se sont aimés, qui n'ont pas le droit de s'aimer. Et puis on a effectivement ce passage à l'histoire de ces deux adolescentes qui parfois peut sembler réaliste, en tout cas dans les propos qu'elles tiennent. Et ces deux univers, en fait, sont extrêmement mouvants. On passe de l'un à l'autre et on pourrait dire que parfois, par exemple, la chambre de l'adolescente est aussi onirique que l'est le monde des contes. Et on passe de l'un à l'autre sans vraiment distinction. Les parents sont présentés aussi comme des monstres. Alors c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que la beauté des images, il faut après repenser à ce qu'on a vu, parce qu'on y perdrait presque le propos, qui est quand même la poursuite d'un discours sur le mal-être adolescent, qui se sentent prisonniers d'un monde adulte, d'une autorité, qui veulent s'émanciper, qui veulent s'aimer en dehors du monde des adultes, et en même temps, avec une confusion. Alors, il y a une confusion entre le rêve et la réalité, mais aussi entre les genres, entre les deux, finalement, filles qui sont très différentes au début, mais qui paraissent interchangeables à la fin. C'est vraiment très fort. Et je dois dire que on a cette constante impression d'être dans un monde flottant et presque de tituber dans ce spectacle. Je trouve ça assez extraordinaire.
Vincent, sur la dramaturgie, Philippe vient de le dire, hein, c'est une dramaturgie qui est finalement assez complexe. On pourrait croire que c'est un conte, mais il y a plusieurs niveaux de lecture et la fin, qu'on ne va pas dévoiler ici, mais promet en tout cas un renversement. Qu'est-ce qu'il dit finalement, Joël Pommerin, de l'adolescence avec cette dramaturgie-là ?
Alors, de l'adolescence, il dit des choses déjà du réel, c'est-à-dire par exemple le harcèlement scolaire, puisque au départ, peut-être juste pour raconter un tout petit peu l'histoire, Jade et Marjorie, eh bien, il y en a une qui harcèle l'autre et qui la harcèle vraiment violemment. Hein. Elle la menace de mort, elle la poursuit chez ses parents. Enfin, voilà, il y a un antagonisme comme ça qui se met en place. Et puis, petit à petit, comme ça, cette relation, elle va se mettre à muter. Et elle mute d'ailleurs. Pareil, là, on nous parle de l'adolescence, de ces relations où, eh bien, on commence à maîtriser ses sentiments et puis on ne les maîtrise plus tout à fait. Alors, on les apprivoise, on se dit, ah, est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour? Et là, Joël Pommerat, pareil, maintient le flou là-dedans, dans cette relation. Et c'est ça qui est très beau. Et ce qu'elles veulent, c'est conserver la relation, la nouvelle relation qu'elles ont mise en place et qui est menacée par les parents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Joël Pommerat, finalement, sans nous le dire, sans nous le souligner ou le surligner, comme le font certains artistes, eh bien là, il nous montre aussi les insuffisances du monde des adultes. C'est-à-dire qu'en miroir, on va avoir des parents, par exemple, qui sont invisibles, on ne les voit jamais.
Que par contre, ombre, hein, projetée sur le mur.
Effectivement, mais ils sont par contre omniprésents dans la voix. Ils sont tout le temps là. Et puis, ça va être des parents qui vont être tout le temps castrateurs, qui vont scruter ce que font les jeunes filles, qui vont parfois aussi les maltraiter, parce qu'il y a aussi de la maltraitance. Voilà, on nous parle de ça avec une jeune femme qui va se faire renvoyer de son collège et puis qui va se retrouver chez elle, enfermée dans une sorte de cloaque où elle se fait maltraiter par son père. C'est ce qu'on comprend, en tout cas. Et là, on va avoir comme ça une insuffisance, oui, du monde des adultes, comme je le disais, qui vont petit à petit devenir, eh bien, des monstres, oui, comme vous le disiez, Philippe, qui vont eh bien manquer de dialogue, d'attention avec leurs enfants, et qui, sur la longueur, eh bien tout cela va devenir très très préjudiciable.
Mais Philippe, peut-être sur la dimension fantastique, encore une fois, sans peut-être tout dire, mais on part d'une scène très réaliste, et puis plus la pièce avance, plus on est dans l'onirique, voire le fantastique.
Oui, alors y a, moi, ce qui me fascine aussi, c'est cette façon qu'il a de créer le fantastique pur. C'est par exemple, il y a un moment donné, il y a une histoire d'un trou qui exauce les vœux. Et le trou, il est impressionnant sur scène. On a l'impression d'un truc d'Anish Kapoor, enfin d'une œuvre d'Anish Kapoor. Il y a un côté absolument fascinant. Et à un autre moment, donc elles sont les deux adolescentes sont dans cette maison et apparaît un monstre animal. C'est un ours et cet ours est d'une polaire et d'une beauté incroyable. Il est presque réaliste, mais éclairé comme il l'est, tout d'un coup, c'est une apparition. Et c'est sans cesse des apparitions. Alors, ça tient aussi, parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi le jeu. Il y a un jeu Pommerat qui me fascine, parce que moi, j'avoue que je vais dire une chose horrible, mais j'adorais Claude Régis, mais j'avais un peu quand même de mal à rentrer dedans à cause du débit des acteurs.
Je peux vous comprendre.
Et là, ces deux actrices, dans la tradition de la direction d'acteurs de Pommerat, elles sont... En même temps, c'est très réaliste, comme on l'a entendu au début dans l'extrait que vous avez donné. Et en même temps, il y a une espèce de distanciation qui est assez incroyable et qui fait qu'il y a un ton, une couleur. Et les deux actrices qui sont Coraline Kerléo, qui joue Jade, et Marie Malakias, qui joue Marjorie, qui sont les deux actrices principales, parce qu'il y a aussi le monstre amoureux Eric Feldman qui joue, plus plein de voix off. Ces deux comédiennes, elles sont assez extraordinaires parce qu'elles s'intègrent complètement dans leur personnage, flottant, encore une fois, entre la réalité et le rêve. Et donc, ça joue. Le fantastique, il est aussi porté par les comédiennes, mais il est évidemment omniprésent. Même la chambre, encore une fois, quand je disais les ombres qu'il peut y avoir, à un moment, il y a une espèce de tempête et tout, on voit des ombres sur les... On est sans arrêt, en fait... porté vers un nouveau monde qui nous est décrit au début du spectacle, d'ailleurs dans une phrase un peu alambiquée.
Dans un prologue. Oui. Vincent, dernière question peut-être sur ce titre provisoire apparaît dans le titre du spectacle, Petite fille modèle, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Pourquoi Pommerat a laissé ça?
Alors bon, au départ, Joël Pommerat, c'était intéressant, c'est-à-dire que bon, il a fait comme certains, c'est-à-dire on met un titre provisoire parce qu'on ne sait pas trop. Et puis il a décidé de le garder finalement. Et je crois que tout cela, il y a un symbole d'une création qui n'est finalement, je crois, pas tout à fait, qui ne sera jamais réellement achevé, où tout ça va être toujours remis sur le métier, en mouvement, et donc il y a cette idée comme ça de provisoire qui se met en place dans la création théâtrale, mais qui se met en place aussi, j'allais dire, scéniquement, parce qu'on sent, même dans l'histoire, dans la dramaturgie, que tout cela peut évoluer, que tout cela est très mouvant, et c'est pour nous sentir ce que disait Philippe, c'est-à-dire tout ce caractère est très très mouvant partout, et puis qui brouille aussi, je pense, parce que Joël Pommerat, il brouille les lieux, mais il brouille aussi les temporalités. Ce que vous disiez sur l'ours ou sur le puits avec le génie, Philippe, ça c'est très intéressant parce que moi j'y ai vu plein de clins d'œil.
Oui, à ses anciens spectacles.
Eh bien oui, parce que l'ours c'est celui de Ma chambre froide, le puits c'est celui de Je tremble, et puis on a le lit de Cendrillon, la forêt des petits chaperons rouges. Et donc c'est comme s'il avait métabolisé comme ça tout un tas de références, y compris des références populaires. Moi j'y ai vu le chair de poule, les références au chair de poule, etc. qu'on peut avoir. Et puis à la culture populaire avec Shawn Mendes, donc je ne connaissais
que maintenant
pas.
Maintenant vous connaissez bien.
Voilà, maintenant je le connais bien.
En un mot, c'est un spectacle sur les adolescents, mais pour les adolescents, à qui il s'adresse? C'est un spectacle tout public? Qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je pense que j'ai tendance à penser que les spectacles de théâtre sont pratiquement tout public, parce que les enfants sont parfois émerveillés par des spectacles, alors, même s'ils ne comprennent pas tout. Donc c'est vrai que c'est pour adolescents et adultes principalement, mais des petits peuvent s'y retrouver aussi, moi je pense.
Philippe Chevillier, vous avez reconnu notre virgule coup de cœur, je suis sûre, et c'est vous qui vouliez justement nous parler aujourd'hui du spectacle qui a remporté le Festival Impatience.
Voilà, alors le Festival Impatience, la 17e édition quand même, et on a vu sortir de ce festival des maîtres et des maîtresses comme Tom Ajoli, Julie Deliquet, Chloé Dabert, Tom Emilio, etc. Et là, nous avions donc 200 captations, une présélection de 30 spectacles.
Vous dites nous parce que vous étiez membre du jury.
Et voilà, j'étais membre du jury. Mais c'est pas le jury en fait se retrouve juste avec 9 spectacles à la fin, 9 ou 10, là c'était 9. Et donc c'est quand même un festival qui est porté à la fois par le 104 qui orchestre le tout, mais il y a aussi le Théâtre 13, le JTN, les Plateaux Sauvages, la Maison de Culture de Créteil et le Théâtre Louis Aragon de Tremblay. Et dans ce jury, il y a des professionnels, des journalistes, des metteurs en scène, etc. Et donc, nous nous sommes retrouvés à 24-25, je crois, pour arbitrer ces 9 spectacles que nous avions vus. Alors, chose intéressante au départ quand même à signaler, c'est que ce festival, sur 9 spectacles, il y en avait au bas mot 6 qui avaient une base documentaire, ce qui est quand même intéressant de voir une évolution, une tendance dans la jeune création. Et donc, celui qui a triomphé, c'est du jury professionnel, c'est Erdal est parti de Simon Roth, qui est une pièce assez audacieuse et très réussie à mon avis, partant en fait d'un document, si on peut dire, enfin d'un personnage, Erdal, donc qui est un Kurde qui a connu l'exil et qui, se retrouvant à Paris en location avec Simon Roth, a envie de raconter son histoire. Il a envie de raconter en fait son histoire à tous les gens qu'il estime et qu'il aime bien. Et donc cette idée de représenter son histoire en scène lui plaît beaucoup. Et donc on assiste à un spectacle qui au départ se fait avec des interviews vidéo, mais qui se poursuit ensuite avec une mise en scène de théâtre. Il y a 4 personnages qui jouent le rôle d'Erdal, 3 acteurs venus de la diversité qui sont formidables, et on a quelques éléments de décor, un canapé, un rideau, etc. Et en fait tous les artifices un peu du théâtre, mais de façon pauvre, de façon arte povera, un peu sont convoqués pour donner en fait une dimension théâtrale à cette expérience d'exil. Donc voilà, je vous laisse signaler ça. Il y a eu aussi 2 autres spectacles qui ont été quand même primés. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid.
Ah, grande citation.
Voilà, ouais. Un retour sur l'expérience de Radio Fréquence Gay, qui est un spectacle formidable. On parlera une autre fois. Et puis, Une nuit à Beyrouth de Mona Eliafi, qui évoque le Liban d'aujourd'hui à travers un duo tendre qui a eu le prix des lycéens. Le Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid a eu le prix de la SACD.
Bien, merci beaucoup, Philippe Chevillier.
Ah, je sens que ça va être un Noël extraordinaire!
Je ne veux pas sortir de la maison, même pour vous faire plaisir, c'est au-dessus de mes forces.
Non, mais ma chenille,
c'est un casse-noisette grandeur nature. Écoutez-moi bien, Clara. Mon cadeau n'est pas un cadeau comme les autres. Vous devrez pénétrer son monde et écouter son histoire.
Si le roi n'a pas sa soupe, ce sera la couiquette pour nous tous. Nous tous.
Je n'ordonne un procès.
Je suis Casse-Noisette. Du pays des souhaits. Des jouets pour vous servir.
Cassez en 1000 morceaux. Venez danser. Venez chanter. La chanson des fêlés.
suite de notre débat critique avec un classique des fêtes de Noël, Casse-Noisette ou le Royaume de la Nuit, dans une mise en scène librement inspirée du conte d'Hoffmann, signé Johanna Boyer, qui avait déjà adapté avec Elisabeth Ventura La Reine des Neiges. Cette mise en scène de Casse-Noisette est interprétée par 7 comédiens de la Comédie Française, dont Baptiste Chapotis, que l'on a vu récemment en Don Rodrigue dans Le Soulier de Satin, et qui est donc ici Casse-Noisette. Hein, c'est la joie de la Comédie Française de passer d'un rôle à l'autre. Philippe, un premier avis en quelques mots.
Alors moi, l'esprit de Noël est tombé sur moi. J'ai bien aimé ce spectacle, comme j'avais bien aimé La Reine des Neiges. Alors, faut savoir, c'est effectivement un tube des fêtes. Hein. Par exemple, aux États-Unis, Casse-Noisette, le ballet, il est joué absolument partout. Et là, on a un passage en fait de la littérature au ballet, puis au théâtre, un spectacle musical. Et je trouve qu'il y a une Johanna Boyer et Elisabeth Ventura ont fait une adaptation plutôt maligne et pertinente du conte. Et qui devient en fait une ode à la réparation, donc un spectacle, je trouve, humaniste sur le fond, et le tout en conservant sa féerie, avec une distribution au taquet, donc spectacle de Noël qui, pour moi, m'a rendu mon âme d'enfant.
Vincent, votre âme d'enfant ?
Moi, j'ai dû la perdre en chemin. Non, mais j'ai été. Je trouvais que c'était assez en demi-teinte, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait des bonnes intentions et intuitions, notamment au niveau de l'adaptation. Là, je vous rejoins vraiment, Philippe, et puis esthétiquement je trouve que c'est assez intéressant, mais j'ai vraiment trouvé ça assez poussif, assez appuyé dans le côté voilà, on va livrer ça aux enfants pour Noël, et puis même dans le jeu, et là je vous rejoindrai pas, parce que je trouve que, honnêtement, les comédiens français, il y en a certains qui sont un peu en sur-régime.
Alors, peut-être un mot, Philippe Chevillier, pour commencer ce débat sur l'adaptation. En quoi est-elle fidèle et en quoi prend-elle des libertés, en fait ?
Alors, elle prend pas mal de libertés. Bon, elle garde l'architecture du conte merveilleux. Hein. Il ne faut pas que tout le monde soit perdu, quand même. Mais d'abord, il y a cette... Dans le conte d'Hoffmann, il y a un petit garçon, là, il n'est pas là. Il y a juste Clara, là, qui est donc l'héroïne, et qui a eu un accident, et qu'elle porte une attelle depuis son enfance. Et c'est le soir de Noël, elle pourrait l'enlever, ou elle pourrait sortir en public avec ses parents, mais elle ne veut pas le faire. Et l'astuce, c'est que... L'oncle magicien qui arrive, Drosselmeyer, va lui offrir le casse-noisette. Et le casse-noisette est cassé par le père de Clara. Donc, il est obligé de le réparer. Donc, on a un automate presque humain, mais qui est cassé. On a Clara avec l'attelle. Et donc, c'est comment vont-ils tous les deux dépasser un peu leur cassure. Alors, il y a aussi une cassure chez le soldat qui n'est... Casse-noisette, c'est un soldat. Il est pacifiste, alors que dans le conte, il fait la guerre. Et il n'y aura pas de guerre, il y aura une conciliation qui sera faite par Clara entre le royaume des Pirlipates, qui mangent sans arrêt des saucisses. Hein,
le royaume du lard.
Et du lard. Le royaume des souris, ça on voit un peu mieux. Et puis le royaume des jouets. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a un autre ajout, qui est un ajout du ballet de 1895, si je ne m'abuse. 1892, le ballet, je crois. De Tchaïkovski, un autre ajout qui est la fée dragée. Et la fée dragée, qui était un peu évanescente, évidemment, dans le ballet, là, devient une virago punk, ce qui plaît beaucoup aux ados dans la salle. Et donc, c'est vrai que ça apporte un élément comique. Alors, on y reviendra, mais vraiment, j'ai aussi été gêné un peu au départ par ce surjeu, et je me suis rendu compte que ça avait une utilité dans le spectacle, qui est en fait d'arriver à... Elle a essayé, en fait, à mon avis, de joindre à la fois le côté merveilleux, le côté de donner un fond, celui du fond sur une ode à la réparation, etc. Et puis, pour donner du rythme, d'axer sur le burlesque. Et c'est vrai que la folie des parents au départ, c'est qu'ils jouent, mais comme ils sont totalement hystériques, ils deviennent roi et reine dans le royaume de la nuit, ensuite roi et reine des Pirlipates. Et donc, ils sont aussi cinglés dans le royaume de la nuit, dans le monde du rêve, que dans la réalité. Et je trouve que ça porte le spectacle, ça lui donne un rythme. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu décontenancé par le jeu des comédiens qui n'est pas habituel.
Vincent Bouquet, qu'est-ce qu'on voit sur scène ? Dans quel univers sommes-nous ?
Oui, alors sur scène, ça c'est assez beau. C'est-à-dire que, alors, passer le prologue où on a ces attelles comme ça, qui sont, ça c'est assez beau d'ailleurs, hein, ces attelles d'âge en âge que Clara a eues au fur et à mesure et où elle discute avec Drosselmeyer. Et on comprend tout de suite que, en fait, elle est guérie physiquement. C'est-à-dire qu'elle pourrait enlever cette attelle.
Châtelet, mais que psychologiquement, ça, voilà, elle veut rester enfermée chez elle parce qu'elle a l'impression de tout mal faire, qu'elle va encore provoquer un accident, parce que cette attelle et cette cicatrice aussi qu'elle a sur le visage, on comprend qu'elle a été causée, qu'elles ont été causées, pardon, par un accident de trottinette. En fait, c'est comme ça, puisque le père, les parents, que ça, c'est vrai, en cela, je rejoins Philippe, c'est-à-dire que au départ, vraiment, le jeu fait que on voit que ce sont des monstres d'égoïsme, vraiment, ces parents, que ce sont, comme diraient les jeunes aujourd'hui, un peu des forceurs. Par exemple, ils offrent à leur fille pour Noël, bon, alors la trottinette, qui est quand même l'objet du drame qu'elle a vécu, donc c'est quand même un peu
étrange,
compliqué,
oui.
Étrange. Et puis, ils lui offrent un tutu. Alors, un tutu, quand faire de la danse classique, quand on a une jambe avec une attelle, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on voit comme ça, parce que eux, ils veulent, ce sont un peu des mondains, ils veulent une sortie en famille, à la fête du maire, enfin voilà. Et donc, là, il y a quelque chose comme ça qui se met en place dans un cadre qui est vraiment un cadre d'une maison. Alors, il y a une sorte de maison de poupée quand même un peu. Il y a un peu ce cadre-là de la maison du réel, avec cette très belle armoire où il y a toutes les créations de Drosselmeyer. Et en cela, Joanna Boyer réussit vraiment quelque chose, parce que elle fait prendre en charge par la scénographie des éléments qui sont dans le conte d'Hoffmann à la base. Et ça, c'est vraiment assez réussi. Et d'ailleurs, toute l'esthétique est vraiment assez belle. On voit par exemple les costumes. Je trouve que les costumes, ils sont vraiment superbement réussis. On a aussi les maquillages, tout ce qui est les coiffures qui sont faites par Julie Poulain et Violaine de Maupeou, et puis la scénographie par Caroline Mexme, si je ne m'abuse. Et à chaque fois, c'est vraiment assez malicieux, assez modulable aussi pour changer d'univers, pour passer de la maison au royaume des Pierre-Lipate, et puis élégant aussi pour véhiculer un certain esprit de Noël, on va dire. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, esthétiquement assez séduisant.
Un mot peut-être sur l'humour, c'est annoncé comme un spectacle drôle, est-ce que c'est le cas, Philippe ?
Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Alors, au départ, effectivement, j'étais un peu gêné parce que c'est un humour méchant au départ. Et puis après, qu'on se retrouve dans la deuxième partie chez les Pierre-Lipates. Alors d'ailleurs, c'est le moment où il y a de la musique. Et ce qui est amusant et audacieux aussi, c'est qu'ils se sont affranchis de Tchaïkovski. Mmh. Il y a une citation dans un petit air à un moment donné, au début. Mais sinon, ce sont des chansons, alors un peu pop, un peu salsa, un peu, voilà, ils savent chanter à la Comédie Française. Donc il y a quelques chansons dans cette partie-là.
Et de la danse aussi, ça danse quand
oui,
même, il reste
danse.
Du ballet.
Ouais. Oui,
ça danse, ça danse. C'est un petit peu,
c'est, ouais, c'est une chorégraphie de spectacle pour jeunes, pour enfants. Moi, ça m'a plutôt fait rire, effectivement, quand on les voit avec leurs saucisses, leurs lards et tout ça, se taper dessus. Et puis, voilà, enfin, on évite le pire, évidemment, à la fin, puisqu'il y a aussi des petits gags avec les... Alors, j'ai beaucoup aimé aussi... Jan Gasiorowski qui joue le rôle de Drosselmeyer et qui, alors, c'est le sage et tout ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je sais pas s'il le fait exprès, mais on a l'impression, je trouve qu'il joue comme Stanislas Nordès, ce qui crée un décalage.
une belle adresse. Il nous reste vraiment juste quelques secondes. C'est un spectacle à partir de quel âge? On peut emmener des tout petits, voir Casse-Noisette?
Oui, des tout petits, sachant que moi j'avais une salle d'ado et qu'ils étaient, mais à fond, ils hurlaient à la fin, ils étaient très contents. Mais on peut emmener des tout petits, bien sûr.
Donc encore un tout public, quoi. Voilà. Casse-Noisette ou le Royaume de la Nuit, mise en scène Joanna Boyer, c'est jusqu'au 4 janvier au Vieux Colombier de la Comédie Française. Merci à tous les deux, chers critiques, et bonne fête à vous.
Merci,
et vous
merci,
qui
Marie.
Nous écoutez, vous pouvez retrouver toutes les références et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture sur le site franceculture.fr.